Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté la terrible histoire du curé Duruf qui, en 1956 en Lorraine, a éventré vivante l'une de ses maîtresses enceintes pour en extraire le bébé qu'il a ensuite lardé de coups de couteau, crime pour lequel il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et cette histoire, je la débriefe avec vous, Bertrand Legendre. Vous avez été longtemps journaliste au Monde et vous venez de publier à compte d'auteur un petit livre qui s'appelle « Crimes et abus sexuels dans l'Église, le cas du curé Duruf », qu'on trouve notamment sur le site d'Amazon. Alors Bertrand Legendre, vous avez été longtemps journaliste au Monde et vous vous êtes replongé récemment dans cette histoire. Je voudrais comprendre pourquoi, parce que dans les années 50, vous n'étiez pas journaliste, n'est-ce pas? Vous n'avez pas assisté au procès. Qu'est-ce qui vous a donné envie, 70 ans plus tard, de vous replonger là-dedans?
Je crois que c'est le premier fait divers dont j'ai entendu parler, très enfant, probablement à la une des journaux qui étaient installés sur les kiosques parisiens où j'ai grandi, avec des pinces à linge, François notamment. Et puis cette affaire du curé Duruf a donné lieu depuis à de nombreuses œuvres de fiction, des romans, des films, des nouvelles, mais aussi à des essais et des documentaires qui s'en sont tenus la plupart du temps à ce qu'on savait grâce aux audiences du procès. Et qui, pour certains de ces documentaires ou ces essais, ont souvent extrapolé à partir de ce qu'on savait. Et donc moi, ma démarche était totalement inverse, ou plus exactement, j'ai voulu m'en tenir à ce qu'on savait, ce qu'on pouvait trouver dans les archives de cette affaire. Alors, il y a les archives de la justice, les archives de la police judiciaire, les archives de l'administration pénitentiaire, et puis aussi les archives de l'Église de France, dont j'ai obtenu la consultation par dérogation.
Personne n'avait jamais fait.
J'ai découvert là, à la fois que l'Église avait été traumatisée par cette affaire, mais qu'elle avait tout fait pour la cacher, en atténuer l'impact, et puis aussi à essayer de faire libérer le Guy de Doyer, le curé du Rue.
On reviendra là-dessus, sur les archives de l'Église, est-ce que vous y avez découvert? Est-ce que le choix d'écrire ce livre et de le publier maintenant a quelque chose à voir avec les scandales qui secouent l'Église catholique aujourd'hui, notamment?
Bien sûr, vous l'avez rappelé aussi, il y a une forme de résonance. Un curé dont sa hiérarchie c'est qu'il est un prédateur sexuel et qu'on déplace d'une paroisse à une autre, ça a évidemment une résonance.
Et ça existait jusqu'à il y a peu de temps.
Justement.
Et peut-être même encore aujourd'hui.
Nous verrons.
Possiblement. Alors j'avoue, Bertrand Legendre, que j'ai un peu de mal, à l'issue de mon récit, à comprendre pourquoi les jurés ont retenu les circonstances atténuantes. Au point d'ailleurs qu'on peut se demander si elles ne lui ont pas été tout simplement accordées parce qu'il était curé.
Très, très probablement. J'ai trouvé dans les archives nationales plusieurs affaires un peu similaires. En tout cas, non, parce que là, il n'y a pas d'affaires similaires. Mais enfin, des assassins qui se sont acharnés sur les corps de leurs victimes, qui ont été condamnés à mort. La grâce leur a été refusée, dans un cas par le président René Coty, dans le second cas par De Gaulle. Et ils ont été exécutés, ces assassins, qui se sont acharnés sur le corps de leurs victimes, comme le curé Duruf l'a fait. Il y a plusieurs mécanismes qui se sont mis en œuvre en faveur du curé Duruf. D'abord, la sélection des jurés.
Oui, Maître Gasse, l'avocat du curé, a récusé la totalité des gens qui n'étaient pas catholiques.
Alors, il avait le droit de le faire. Le mécanisme de sélection des jurys, à l'époque, faisait que, de fait, puisque c'est un tirage au sort qui est fait par les maires de village, il y a d'abord qu'une femme parmi les jurés.
Oui.
Et puis, effectivement, on s'arrange qu'il n'y ait que des bons catholiques, comme on disait à l'époque.
Pourquoi? Parce que ça appelle la rédemption? Parce qu'être catholique implique le pardon?
Il a essayé de plaider le fait que, dès 13 ans, ce jeune homme qui n'était pas fait pour ça avait été donné, en quelque sorte, à l'Église, parce que c'était une forme de promotion sociale. Mais ce n'est pas ça le raisonnement qui a convaincu les jurés. Il a plaidé, on ne peut pas lui en tenir grief, mais contre la peine de mort. Et puis il leur a dit, vous êtes devant un homme d'église, regardez le Très-Haut qui vous regarde et qui va vous aider, qui va vous guider votre décision. Et donc, par un artifice obligatoire à l'époque, qui est celui du code pénal, on a accordé à Guy Desnoyers, le curé Duruf, le bénéfice des circonstances atténuantes.
C'est un artifice, c'est-à-dire qu'il faut bien trouver une justification pour ne pas le condamner à mort.
C'est le seul moyen de ne pas le condamner à mort, effectivement.
Ça a fait du bruit à l'époque qu'il échappe à la guillotine.
Oui, pas mal. Beaucoup de, je pense à certains articles du Canard Enchaîné qui ont pas mal ricané. Et puis alors, il y a une autre dimension qui est la dimension, j'allais dire, satanique. C'est-à-dire, un certain nombre de journalistes, dès l'époque, ont expliqué que le curé Duruf, en lardant de coups de couteau le visage du bébé, d'abord, il l'a fait parce qu'il ne voulait pas qu'on lui attribue la paternité. Et certains journalistes sont allés plus loin et ont expliqué qu'il avait tracé avec son canif une croix. Oui. Sur le front de la victime.
C'est vrai.
C'est-à-dire, ça donnait. Non, ce n'est pas vrai. J'ai vu les photos de l'autopsie. Ça donnait une dimension absolument incompréhensible et en même temps incompréhensible. C'est une œuvre satanique. On ne pouvait pas imaginer qu'un homme, a fortiori un prêtre, se livre à ce genre de carnage.
Est-ce qu'il l'a baptisé, comme on a pu le dire, dans certaines fictions ?
Très probablement, plus exactement, il l'a ondoyé. Ondoyé, c'est un sacrement qui se passe en général dans l'Église d'autrefois, juste avant le baptême proprement dit.
Alors, quand on se plonge sur les archives de l'Église catholique, ce que vous êtes le premier à faire dans ce dossier, qu'est-ce qu'on apprend ? L'Église était au courant de ces frasques, depuis le début.
D'abord, il avait mis une première paroissienne enceinte qu'il avait emmenée accoucher loin du Ruf, à Montélimar, dans la Drôme. Et donc, l'évêque de l'époque, l'évêque de Toul et Nancy, l'avait sermonné. Et donc, au lieu de l'écarter de la cure du Ruf, il l'avait maintenu en poste. Mmh. Et s'il l'avait écarté, évidemment... Le curé du Ruft n'aurait pas été libre de ses mouvements 2 mois après.
Mais jusqu'où est allée la pression de l'Église sur le système judiciaire et médiatique d'ailleurs ?
Alors, il y a d'abord l'affaire du procès qui a un immense retentissement.
Le procès, il faut le dire quand même, j'ai peut-être pas assez appuyé là-dessus, qui ne dure qu'une seule journée.
10 heures exactement, une journée et demie, mais c'est effectivement, elle était prévue pour 24 heures. Et là, pendant ce temps-là, enfin, dans les semaines qui ont précédé, l'Église de France a exercé des pressions, notamment Mgr Villot, qui dirige à Paris la conférence des évêques, fait des démarches auprès des médias parisiens et notamment auprès de Pierre Brisson, qui est le directeur du Figaro, en lui disant « n'envoyez pas un journaliste sur place ». Il obtient de la radio-télévision française qu'elle n'envoie pas la RTF un journaliste sur place. Donc, les pressions de l'Église s'exercent de telle manière qu'avec un certain succès.
Le directeur du Figaro n'envoie personne.
Si, finalement, alors il résiste, il est invité à déjeuner à l'archevêché, enfin, plus exactement au siège de la conférence des évêques de France, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et il résiste, il envoie un envoyé spécial, mais pour tout dire, le Figaro a été assez discret dans sa façon de couvrir le procès.
Alors, il y a un autre. Et la radio-télévision publique n'envoie pas Poitcher.
Non. Frédéric Poitcher, qui était le grand chroniqueur judiciaire de l'époque, qu'il est resté très longtemps, lui n'y va pas. Donc, les auditeurs, on dirait France Inter aujourd'hui, sont privés de cette affaire.
J'ai cru comprendre aussi que l'Église, après sa condamnation, a tout fait pour le faire libérer de manière anticipée.
D'abord, il a obtenu la commutation de sa peine en 20 ans de réclusion. Et puis, effectivement, il y a eu un espèce d'accord qui s'est passé au moment où il est incarcéré. C'est là où il a passé les dernières années de son incarcération, au centre de détention de Toulouse, de Muret. Il y a un espèce d'accord qui se passe entre ses demandes à lui, les demandes d'un certain nombre de prêtres qui le soutiennent et qui font des démarches, y compris jusqu'au cabinet du garde des Sceaux, pour obtenir sa libération. Et tout le monde s'interroge, ceux qui vont devoir le décider, le juge de l'application des peines, les gens pour qu'on va interroger pour avis. Et en fait, il y a un espèce d'accord qui se passe. On va le libérer, on accepte de le libérer, mais il faut qu'il disparaisse. Et c'est à ce moment-là qu'à nouveau intervient l'Église, puisqu'il a été, on dirait aujourd'hui, exfiltré dans une abbaye bénédictine de Sainte-Anne de Kergonan, où j'ai été recueillir le témoignage de ceux qui l'avaient connu. Il était mort déjà depuis quelques années, à l'âge de 90 ans, vous l'avez rappelé.
C'est-à-dire que vous êtes entré dans cette abbaye bénédictine ?
Je suis entré dans cette abbaye bénédictine et j'ai recueilli avec...
Mais comment ? Parce que, est-ce que vous dites aux moines bénédictins, je vais venir pour parler du curé du Ruf ? Ça ne me paraît pas possible.
Je me suis inscrit comme retraitant, quelqu'un qui voulait faire une retraite, un certain nombre de
Vous vous êtes infiltré.
Je me suis en quelque sorte infiltré, mais au bout d'un ou deux jours, j'ai dit qui j'étais et je m'attendais à être soit mis à la porte, soit accueilli avec à la fois circonscription, curiosité, et puis voilà, j'ai trouvé beaucoup de transparence et j'ai pu m'entretenir, notamment avec des moines, des bénédictins qui l'avaient escorté jusqu'à son heure ultime, qui lui avaient tenu la main jusqu'à
et
la dernière.
Et qui disent quoi?
C'était assez mystérieux, il ne se livrait pas beaucoup. Pour tout dire, il ne connaissait pas les moines qui l'avaient entouré les 20 dernières années de sa vie. Il savait par la rumeur qui c'était, mais je crois leur en avoir beaucoup appris, oui, effectivement.
À aucun moment, dans les dossiers que vous avez consultés, il n'est question de la part de l'Église catholique de leur évoquer en tant que prêtre.
Ah si, le tribunal ecclésiastique de Nancy s'est réuni après le procès d'assises, c'est en application du droit canon, et il a été
réduit à l'état laïque.
Elle est réduite à l'état laïque, effectivement.
Donc, quand il est à l'abbaye, il n'est qu'un laïc à l'abbaye.
Voilà, il est d'ailleurs abrité dans une maison un peu à l'écart, mais il prend ses repas comme je les ai pris moi avec les moines, et ça a duré pour lui pendant 20 ans. Heureusement, pas pour moi.
Et il est mort donc en 2010. Je pense que beaucoup de gens ont été surpris d'imaginer qu'il était vivant il n'y a pas si longtemps que cela. Est-ce qu'on a cherché à le rencontrer ces dernières décennies? Est-ce que des journalistes, à votre connaissance, ont tenté de le retrouver?
Oui, ça s'est passé une ou deux fois pour un journal qui s'appelle Le Meilleur, qui n'existe plus aujourd'hui, un journal qui retraçait un certain nombre d'affaires judiciaires ou de crimes relatés abondamment par la presse, mais très peu. Au tout début de son admission dans cette abbaye, il craignait beaucoup les paparazzi. Et il y a d'ailleurs un article de Paris Match qui l'a beaucoup traumatisé. Et il s'est, à ce moment-là, beaucoup méfié et caché.
Ils n'ont pas paparadé, Paris Match.
Si, si, il y a une photo de lui. Il a 70 ans, il est un peu méconnaissable. Il a les cheveux blancs, une moustache. Et la journaliste qui l'a retrouvé le fait un peu parler. Il exprime beaucoup de remords. Et quelque chose d'assez curieux, il dit aussi, vous savez, si on avait été dans une période préconciliaire, c'est-à-dire avant le concile de Vatican II, peut-être les prêtres, à ce moment-là, on leur aurait donné l'autorisation de se marier. Peut-être ça ne serait pas arrivé. C'est pas une excuse.
Mmh. La tombe, vous l'avez vue? Il y a vraiment écrit Monsieur Guy.
Oui, Monsieur Guy, à l'écart un petit peu de l'abbaye proprement dite, il y a un cimetière où sont enterrés les moines de l'abbaye, et c'est là qu'il a été inhumé dans une tombe anonyme, comme vous l'avez dit.
J'ai essayé de faire mes calculs. Donc, l'abbé de Noyers a aussi mis enceinte Christine Mercier, qui était la meilleure amie de Régine Fraisse. Elle a eu une petite fille, je crois, qui a été adoptée à Uruf par une autre famille.
Non, elle a été adoptée dans la Drôme, c'est là où elle a accouché, ou dans l'Ain, à proprement parler.
Logiquement, elle est vivante, cette petite, qui ne doit plus être si petite que ça.
Oui, je garderai son nom, parce que non seulement je connais le nom sous lequel elle a accouché, sous X, comme on dit, et puis je connais le nom son nom de jeune femme, et puis d'aujourd'hui de femme âgée. Oui.
Vous l'avez rencontrée?
Oh non, j'ai pas voulu. Ça n'avait pas d'intérêt pour cette enquête. Et puis peut-être n'en sait-elle rien, elle-même, qu'elle est la fille du curé du Ruf.
Et c'est pas le moment de lui rappeler, au bout de sa vie?
Non, probablement pas, non.
Merci infiniment Bertrand Legendre pour cette interview et ce livre que vous trouverez donc sur le site internet amazon.fr, Crime et abbés sexuels dans l'Église, le cas du curé du Ruf.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.